Bonjour le monde, aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 11 mai 2022 avec vous Eric Manirakiza
et Yakuba Ouedraogo. Voici d'abord le sommaire.
Au Mali, manifestation d'une centaine de personnes à Bamako pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel.
Au Sénégal, l'État distribue des aides face aux effets des crises mondiales.
Biden promet de tout faire pour lutter contre l'inflation.
Premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards pour l'Ukraine.
Au moins 148 personnes tuées par des gangs en Haïti depuis fin avril.
Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Lancement hier mardi à Dakar par le président sénégalais Macky Sall d'un programme d'allocation financière pour plus d'un demi-million de ménages démunis afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l'épidémie de Covid-19. Plus d'informations avec Nanit Talani. Nous avons un problème technique, nous nous excusons de ce qui se passe. Nous espérons que ça va se régler avant la fin de cette édition. On poursuit avec cette manifestation au Mali, Yakuba.
Environ une centaine de personnes, 300 selon les organisateurs, dont de nombreux jeunes ont manifesté mardi à Bamako pour réclamer la levée des sanctions contre leur pays et le retour à l'ordre constitutionnel, a constaté un correspondant de l'AFP. La manifestation avait été autorisée par le gouvernement malien.
Et le Mali s'engage à développer la coopération militaire avec le Rwanda en vue de renforcer ses capacités en termes de défense territoriale et de protection des civils. C'est en tout cas l'indication du chef d'état-major des forces armées maliennes, le général de division Oumar Diarra, en visite de travail au Rwanda. Il s'est rendu donc à Kigali, le Mali, qui fait face à une lutte contre les djihadistes.
Et puis Eric, à son procès à Paris pour sa participation présumée au génocide des Tutsis en 1994, Laura Bouchibaruta a commencé mardi à retracer 30 ans d'une carrière, selon lui, presque imposée dans la fonction publique.
Et Laura Bouchibaruta était à l'époque le préfet de Gikongoro. Il est poursuivi pour un massacre des Tutsis commis à Morambi, c'est au Rwanda. Il est jugé depuis lundi pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, des accusations qu'il conteste. Laura Bouchibaruta souffre à 78 ans de pathologies multiples. L'ancien fonctionnaire du Rwanda comparaît libre.
Et puis Eric, en République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été tués lundi dans un camp de déplacés en Ituri, c'est dans le nord-est du pays. Les miliciens présumés du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, appelé CODECO, sont soupçonnés par un groupe d'experts d'avoir commis, disons, ces massacres.
Et dans la corne de l'Afrique, Yakuba, un record de 39 candidatures a été enregistré pour l'élection présidentielle prévue dimanche en Somalie, annoncé mardi le comité parlementaire en charge d'organiser ce scrutin, maintes fois reporté et attendu depuis plus d'un an. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs réunis à l'aéroport de la capitale Mogadiscio, lieu le plus sécurisé du pays.
Et puis, le président sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmadjo est candidat à sa réélection, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à réaliser. On va rappeler que la Somalie fait face depuis 15 ans à une insurrection des islamistes radicaux Shabab.
Un ancien modérateur de contenu pour Facebook au Kenya a porté plainte mardi contre Meta. Meta, c'est la maison mère du réseau social qui l'accuse d'exploitation. Un nouveau contentieux pour la plateforme mondiale critiquée par de nombreuses ONG.
La plainte, décrit des conditions de travail indignes, des méthodes d'embauche trompeuses aux rémunérations irrégulières et insuffisantes, en passant par le manque de soutien psychologique, la pression du rendement et des atteintes à la vie privée et à la dignité, en violation de la constitution kényane, selon donc le plaignant, qui dit avoir fait face, Eric, à une vidéo qui retrace une décapitation pour sa première journée de travail avec Meta.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, les prix de l'essence à la pompe ont atteint un nouveau record hier mardi. Le président Joe Biden a affirmé que son administration mettait tout en œuvre pour faire baisser les prix sans faire ralentir l'activité économique.
États-Unis, toujours, les décès par arme à feu ont enregistré une hausse historique en 2020, selon un rapport des autorités sanitaires publié hier mardi.
Le Congrès américain a franchi mardi une première étape vers le déblocage d'une nouvelle enveloppe de prêt de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Suivant le président Joe Biden dans son soutien indéfectible à Kiev.
Avec ce programme d'aide, l'Amérique envoie au monde entier le signal de notre détermination inébranlable à soutenir le peuple courageux d'Ukraine jusqu'à la victoire contre Moscou, a souligné Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Ce paquet doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par le président Biden.
Au sein de cette grande enveloppe Yakuba, 6 milliards de dollars doivent permettre à l'Ukraine de s'équiper un véhicule blindé et renforcer sa défense anti-aérienne à l'heure où les combats font toujours rage dans l'est et le sud de l'Ukraine.
Parlant toujours de cette enveloppe, près de 9 milliards de dollars sont également prévus pour assurer, entre autres, la continuité des institutions démocratiques ukrainiennes ainsi qu'un large volet humanitaire.
La chef du renseignement américain, Avril Haines, a prévenu mardi que Vladimir Poutine, le président russe, se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, misant sur un essoufflement du soutien occidental à Kiev lorsque les pénuries de biens alimentaires et la hausse des prix de l'énergie vont s'aggraver.
Le sénateur républicain Lindsey Graham et celui démocrate Richard Blumenthal ont franchi une étape supplémentaire mardi, hier donc, dans la riposte contre Moscou. Ils ont dévoilé une résolution qui exhorte le chef de la diplomatie américaine à inscrire la Russie sur la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme.
Il faut souligner que 4 pays aujourd'hui figurent sur cette liste noire. C'est le Cuba, l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord.
L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, extradé et détenu aux États-Unis depuis fin avril pour trafic de drogue, a plaidé non coupable mardi et sera jugé par un tribunal à New York, tandis que l'ex-chef de la police du pays, accusé d'avoir supervisé ce trafic, a été extradé vers les États-Unis.
Elon Musk s'est dit prêt mardi à lever la suspension définitive du compte de Donald Trump, l'ex-président américain, sur Twitter, décidé après l'attaque du Capitole, suscitant des réactions contrastées entre défenseurs de la liberté d'expression à tout craint et militants craignant un déferlement de propos haineux sur la plateforme.
Et puis cette décision de Twitter était mauvaise moralement et les interdictions définitives devraient être extrêmement rares et réservées par exemple aux faux comptes, a-t-il affirmé lors de son intervention par vidéo.
Au moins 148 personnes ont été tuées entre fin avril et début mai dans le nord de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en proie à des affrontements entre deux gangs rivaux, a annoncé mardi une organisation de défense des droits humains.
Dénonçant un massacre d'une cruauté inouïe, le Réseau national de défense des droits humains indique dans son rapport que des personnes ont été tuées par balles ou à l'arme blanche.
D'autres victimes ont été brûlées vives à l'intérieur même de leurs maisons incendiées ou dans les rues avec des pneumatiques.
Les femmes et les filles assassinées ont pour la plupart été violées avant, rapporte l'Association de défense des droits humains.
L'organisation haïtienne témoigne de l'existence d'une fosse commune avec 30 cadavres enterrés par l'un des gangs car les corps, abandonnés en pleine rue sous le soleil, entraient en décomposition. D'autres corps ont, eux, été jetés par les auteurs des meurtres dans des puits ou des latrines.
Et puis, au moins 9000 habitants de ces quartiers, devenus théâtre de cette guerre de gangs, ont fui leur maison et se sont réfugiés chez des proches ou dans des sites temporaires tels que des églises et des écoles.
C'était les quelques nouvelles du monde. Et Yacouba, nous parlons maintenant des sports. Qu'est-ce qui se passe en Afrique actuellement, Yacouba?
Ben écoute, Eric, c'est une actualité sportive longuement dominée par cette décision de la FIFA d'infliger finalement une amende au Sénégal. Vous vous rappelez de ce match de qualification pour le Mondial à Qatar 2022, le match retour qui s'est joué au nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à une cinquantaine de kilomètres comme ça de Dakar, où il y a eu quelques incidents avec une affiche, notamment une banderole qualifiée par la FIFA de raciste. Et donc finalement, l'Égypte a porté plainte, la FIFA a tranché. Le Sénégal écope d'un match à huis clos, donc le prochain match du Sénégal en principe dans ce stade de Diamniadio pour les journées FIFA. Et donc pour les matchs concernant les organisés par la FIFA, le Sénégal devra jouer sans supporters. Et en plus de ça, le Sénégal écope quand même d'une lourde avance, environ 170 000 euros. Et l'Égypte seulement 3 000 euros. Pour, vous allez vous rappeler, c'est laser bien sûr que les Égyptiens ont utilisé lors du match aller. Okay.
Et le Sénégal a renoncé à accueillir une compétition au profit du Maroc?
Oui, il s'agit bien sûr de la finale de la Ligue des Champions, c'est bien ça Eric?
C'est ça.
Voilà, et donc on s'attendait tous à voir cette belle finale se dérouler dans ce beau stade nouvellement construit du côté de Diamniadio. Finalement, la CAF a attribué cette finale au Maroc, et là encore il reste à désigner la ville marocaine qui va accueillir cette finale. Ça va se jouer peut-être entre Casablanca, il y a Agadir et il y a Rabat bien sûr, et donc on attendra de voir quel stade les autorités marocaines vont désigner pour accueillir, bien sûr, cette finale de la Coupe de la Ligue des Champions.
Voyons ce qui se passe en Europe dans la Liga. Barcelone, qui vient de très loin, s'approche de la deuxième place, ou va confirmer sa deuxième place, qui lui donnera droit à la participation à la Ligue des Champions. Encore une fois, Ousmane Dembélé s'est beaucoup illustré.
Tout à fait Eric, Ousmane Dembélé qui fait de très belles choses, il faut le rappeler, depuis le retour aux affaires de Xavi Hernandez sur le banc du Barça, après le départ donc du précédent entraîneur. Il faut rappeler que lorsqu'il venait, le Barça était pratiquement 9e de la Liga. Il a réussi à ramener l'équipe à cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est un exploit, il faut le reconnaître, pour Xavi quand même qui entraînait au Qatar et donc pas dans un pays vraiment de football. Et ajouté à ce réveil de Dembélé, il faut reconnaître aussi les prestations énormes du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a déjà, il dit, quand il est arrivé, il a dit à Ousmane Dembélé, tu ne bouges pas. Dembélé qui était pratiquement sur le départ avant l'arrivée de Xavi. Donc, on va dire que c'est une sorte de renaissance pour le Barça, mais aussi une sorte de renaissance pour Ousmane Dembélé, qui se blesse moins. Le Barça aussi, il faut le rappeler, qui a enregistré le retour récent de Ansu Fati, originaire de la Guinée-Bissau, mais qui a été naturalisé espagnol et qui joue pour la Roja.
Et le Barça qui jouera la Supercoupe d'Espagne.
Oui, on espère bien que ça va être peut-être le trophée qu'ils vont réussir à accrocher cette année. Vous le savez, pour le Real Madrid, c'est fait, ils ont déjà la Liga en poche. Leur objectif, c'est la Ligue des Champions, dont la finale va se disputer au Stade de France le 28 mai prochain. Et donc, ça serait bien que le Barça accroche quand même un trophée pour ne pas sortir bredouille. Vous le savez, ce sont des grands clubs qui dépensent énormément dans les salaires des joueurs, dans l'organisation et autres. Donc, le Barça a surendetté, ce n'est plus un secret. Et donc, voilà, s'ils réussissent à accrocher ce trophée-là, je pense que ça va leur apporter quand même un boom au cœur. Ce sera une saison pas totalement perdue.
Et Erling Haaland qui a annoncé du côté de Manchester City, ce n'est pas encore confirmé.
Oui, ce n'est pas encore confirmé, mais on espère bien que voilà, ce sera cette perle qui permettra à Man City et Pep Guardiola de d'accoucher en fin de Ligue des Champions.
La pièce manquante, comme on dit, le numéro 9.
Tout à fait.
Merci, Yacouba. Voilà, c'était les quelques nouvelles sportives avant de passer à la seconde partie, la partie magazine. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kidza de retour avec vous, place au dossier du jour. La COP 15 se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le thème sécheresse et restauration des terres, le président ivoirien Alassane Ouattara a proposé à ses pairs un nouveau plan d'action pour répondre aux problèmes de désertification et de sécheresse. Le compte-rendu de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
L'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Program est une nouvelle approche du président ivoirien pour consolider les acquis d'un développement durable face aux difficultés de la dégradation des sols. Alassane Ouattara.
En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Program. Ce programme dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement, les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Je porte personnellement cette initiative avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde.
Mais quelles sont les composantes de cette initiative d'Abidjan? Lucien Dibi est membre du comité scientifique de la COP 15 et docteur en agronomie.
L'initiative d'Abidjan a 4 grandes composantes. La première composante, c'est de lutter contre la déforestation et de restaurer les forêts et les paysages qui sont déjà dégradés. La deuxième composante porte sur l'intensification durable de notre agriculture. La troisième composante, c'est de rendre les chaînes de valeur agricoles existantes plus durables et sans empreinte sur la forêt. Et la quatrième composante porte essentiellement sur l'identification de chaînes de valeur qui soient les chaînes de valeur du futur.
Les partenaires au développement s'engagent à accompagner cette initiative. Maria Elena Semedou, directrice générale adjointe de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Le Fonds pour l'Environnement a pris en charge le financement du volet la gestion des connaissances de ce grand programme-là pour un montant de 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard 200 millions de francs CFA.
La BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, n'est pas en reste. Son patron est Serge Ekoui.
La Banque Ouest-Africaine de Développement contribuera pour un montant global de près de 370 milliards de francs CFA, un petit peu moins de 600 milliards de dollars, à l'Abidjan Legacy Programme.
Ainsi, tout le monde met la main à la poche pour réveiller un peu la planète qui meurt de la déforestation et de la dégradation des sols. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
Au Togo, le gouvernement a procédé à une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers dans les stations-service à partir de ce mardi. L'essence sans plomb passe de 595 francs CFA à 625 francs CFA. Le gasoil subit une hausse de 55 francs CFA et se vend désormais à 660 francs CFA. La dernière hausse des prix des produits pétroliers est intervenue le 29 mars dernier. Le gouvernement invoquait le prix du baril du pétrole sur le marché international pour justifier cette hausse. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
En l'espace de 40 jours, le gouvernement a procédé à 2 hausses consécutives des prix des produits pétroliers. Une situation qui laisse sans voix les Togolais. Komi, un taximan dans la capitale togolaise, ne sait plus à quel fin se vouer.
Il y a un mois, ils ont augmenté. On a crié qu'ils vont nous tuer. Ça n'a pas suffi.
et ils viennent d'augmenter encore. C'est qu'ils veulent nous enterrer. Vraiment, on ne comprend plus rien. Trop, c'est trop. On ne peut plus tenir.
Sur le grand contournement de Lomé, à la périphérie de la ville, beaucoup de motocyclistes et de conducteurs de voitures s'arrêtent au bord de la route pour s'approvisionner avec de l'essence frelatée. Francis, un usager de la route, se dit obligé de procéder ainsi.
C'est l'essence frelatée qui va nous sauver maintenant. Tu prends 2000 francs pour payer 3 litres d'essence. Où peux-tu aller avec ça? Ici au moins, il reste sur l'ancien prix. Comme ça, tu gagnes 30 francs sur le litre. Ça peut faire quelque chose.
Dans un communiqué, le gouvernement indique que, nonobstant cet ajustement, le montant global de la subvention pour le mois de mai 2022 est estimé à 12 milliards de francs CFA. Maintenant, ainsi, le soutien au pouvoir d'achat. Jean-Baptiste, de l'Association des usagers des services publics du Togo, n'est pas d'accord avec cette pratique des autorités qui souffrent de transparence.
Je crois que le gouvernement est dans un mauvais rôle en donnant toujours l'information aux populations comme quoi ils subventionnent les produits pétroliers. Depuis longtemps, il y a beaucoup de structures de la société civile qui ont exigé du gouvernement la transparence, c'est-à-dire la vérité dans la structuration des prix des produits pétroliers. Mais depuis, cela n'a pas été un acquis. Donc, beaucoup d'organisations de la société civile se plaignent toujours qu'il n'y a pas de transparence dans la fixation de ces prix. Donc quand le gouvernement dit aujourd'hui que les produits sont toujours subventionnés, on n'a pas la preuve. Donc on ne peut pas croire à un gouvernement qui ne joue pas le jeu de la transparence.
Abondant dans le même sens, le député de l'opposition Diri Tama relève sur sa page Facebook que le gouvernement, en disant qu'il met environ 12 milliards pour amortir les prix actuels, en est en droit de se demander combien coûterait le carburant sans la subvention. 12 milliards le mois, ça fait 144 milliards par an, soit environ 9% du budget national. La subvention des produits pétroliers serait la première dépense de l'État. À ce coût, il faudrait se résoudre à se déplacer à vélo si on veut développer le pays, ironise-t-il. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine et l'urgence d'une sécurité alimentaire en Afrique. Ce conflit qui oppose deux des plus grands exportateurs de blé dans le monde a mis en exergue la dépendance alimentaire du continent à l'extérieur, poussant décideurs et experts à appeler à une production locale plus importante de produits de base comme les céréales. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux en Afrique en raison de la flambée des prix alimentaires dus au conflit en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universelle sur VOA Afrique et VOA Afrique.org.
La cybercriminalité a coûté plus de 6 000 milliards de dollars au monde l'an dernier. C'est ce qu'a révélé Alessandro Profumo, patron du géant italien de l'aéronautique et de la défense. Leonardo, citant une enquête de l'Association italienne pour la sécurité informatique. Une situation d'autant plus critique qu'il existe un manque d'experts en sécurité informatique. Comment évalue-t-on les pertes subies par les entreprises dues à la cybercriminalité et quels risques pour les entreprises? Abdourahmane Dia a posé la question à Shekina Ahmed Diouf, responsable de la sécurité informatique du groupe Randstad France.
À titre comparatif, 6 000 milliards de dollars, c'est le cumul du chiffre d'affaires des 10 plus grandes entreprises au monde. C'est également 12 fois le fonds souverain saoudien. Donc l'impact est colossal. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs critères qui entrent en compte pour arriver à cette estimation. En plus de la first activité, donc de business, on va évaluer des coûts induits par l'incident en réalité, c'est-à-dire évaluer les moyens humains, financiers, matériels et logistiques à consentir afin de revenir à la normale. En agrégeant l'ensemble de ces estimations pour les entreprises ayant subi une cyberattaque en 2021, en fait, on arrive au chiffre qui a été communiqué par le patron de Leonardo, soit les 6 milliards de dollars en question.
Alors, la pandémie de COVID-19 et l'accélération de cette numérisation qui a été donc une nécessité, sont considérés tout de même comme des dommages collatéraux de cette activité criminelle. Cela veut-il dire que les compagnies, les entreprises n'étaient pas préparées?
Préparées à la digitalisation, si. En revanche, préparées à cette transition qui s'est accélérée, fondamentalement, non. D'une part, on assiste à une pénurie des sachants en cybersécurité. La réalité, c'est que les entreprises ont d'énormes difficultés à trouver la bonne expertise, la bonne personne au bon moment. D'autre part, la pandémie de COVID-19 ne nous a pas, en tant qu'acteurs de la cybersécurité, bien évidemment, laissé le temps d'accompagner la transition digitale des entreprises comme il se doit. Résultat, on assiste à une hausse considérable de ce que j'appelle l'industrie de la malveillance cyber qui atteint des dommages records.
Alors, rien que pour l'Europe, on parle de dizaines de milliers de personnels que cela nécessite pour faire face à la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on peut combler ce gap?
Il est difficile aujourd'hui, vu l'expertise que requiert la cybersécurité, de pouvoir staffer en évaluant la qualité des ressources comme on l'aurait fait auparavant. En revanche, il y a de plus en plus d'académies et d'écoles qui se montent au niveau des différents pays. Je pense à la France avec le campus cyber qui a été mis en place pour justement renforcer l'expertise sur ce domaine.
Alors, avec cette vulnérabilité de beaucoup d'entreprises, comment gagner la confiance des consommateurs, surtout dans le domaine bancaire, par exemple? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Disons qu'il n'y a pas pour moi plus d'inquiétude à avoir qu'actuellement. Les banques déploient des mesures qui sont quand même considérables pour faire face aux cyberattaques. Et ils sont appuyés dans cette démarche fortement par les États, avec plusieurs directives visant à rehausser le niveau de sécurité globale. Par contre, on pourrait se demander si les États ne devraient pas consentir plus de moyens pour renforcer la résilience, parce qu'il s'agit d'une problématique de souveraineté avant tout. Je pense au Canada, notamment, qui a créé un ministère dédié à la cybersécurité. Et on en est à l'aube d'un mouvement d'ampleur qui va se déclencher au niveau des différents États.
C'était Cheikhina Ahmed Diouf, joint à Paris. Alors que le monde a franchi cette semaine le cap de plus de 15 millions de décès du COVID-19, dont plus d'un million aux États-Unis, des chercheurs américains font le bilan de ces deux dernières années. Le reportage de Laurel Bowman, récit signé Claire Morin-Gibourg.
L'Amérique vient de franchir le cap d'un million de morts du COVID-19. Des chercheurs américains se penchent sur ces deux dernières années, analysant plus précisément les données sur ces décès. Ils affirment que les minorités ont été durement touchées, y compris les jeunes dont les emplois les avaient forcés à être au contact de personnes avant qu'une grande partie de la population ne soit vaccinée. Au début du Covid-19 aux États-Unis, les décès ont eu lieu d'abord dans les villes, puis le virus s'est propagé à des zones rurales. Les autorités ont tardé à organiser une réponse nationale. Ceci, combiné à la désinformation sur les vaccins, a empêché de nombreuses personnes de se faire vacciner. Le docteur George Benjamin est directeur exécutif pour l'American Public Health Association.
Il est vrai que nous avons fait ces recherches et produit des vaccins en un temps record, mais cela faisait plus de 20 ans que ces coronavirus étaient étudiés. Donc, nous avons pu créer un vaccin relativement vite, et parce que cette information n'a pas été transmise correctement, beaucoup de personnes ont pensé que des étapes avaient été sautées, mais c'est faux.
D'autres experts affirment que les services locaux de santé à travers le pays étaient mal préparés à une pandémie. Le docteur Tom Frieden est le président de Resolve to Save Lives, soit déterminé à sauver des vies, une organisation qui vise à rendre le monde plus sûr contre les pandémies.
There is no question.
Il ne fait aucun doute que nous récoltons les fruits de décennies de sous-investissement dans la santé publique au niveau national, étatique, municipal et local aux États-Unis ainsi qu'à l'échelle mondiale.
Dans le monde, plus de 15 millions de personnes sont mortes du COVID-19. De nombreux experts disent que nous traversons le pire de la pandémie aux États-Unis. Entre 60 et 70% de la population américaine a été vaccinée contre le Covid-19 et un nombre similaire a été infecté, ce qui leur confère une certaine immunité. Mais les experts disent qu'à mesure que le virus évolue et mute, des rappels continus peuvent être nécessaires pour que la vie puisse reprendre comme avant.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Fatouma Kalala Alimassi pour la production et la mise en onde de cette édition. À la présentation, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.